J'aimerais commencer ce matin par une petite question rhétorique. Et je pense, sans prétention, connaître votre réponse. Si vous deviez choisir entre rire et pleurer, entre la joie et la tristesse, que choisiriez-vous ? Difficile, n'est-ce pas ? À moins d'être en pleine dépression, je pense que, comme moi, vous choisiriez le rire et la joie. Tout le monde, sauf exception pathologique, aime rire. Il paraît d'ailleurs, je crois que c'est Rabelais qui l'a dit en premier, que le rire est le propre de l'homme. Quoi qu'il en soit, que ce soit vrai ou pas, rire fait du bien. C'est sans doute le meilleur des anti-stress, des antidépresseurs, en tout cas le moins cher. Il paraît que si nous rions au moins 10 minutes par jour, nous serions en bien meilleure santé. Beaucoup de médecins le disent, des études semblent le confirmer, et toutes sortes de thérapies du rire ont ainsi été développées. Alors face à ce constat des bienfaits du rire, et de tout ce qui l'accompagne, la joie, la bonne humeur et j'en passe, j'aimerais placer ce matin une parole de Jésus qui, à l'inverse, semble faire la promotion de la tristesse. Une parole de Jésus où les pleurs sont érigés au rang de bienfaits, de bonheur, de béatitude. Heureux, quand l'informatique fonctionne. Heureux le prédicateur qui n'a pas de souci d'informatique. Voilà. Heureux ceux qui pleurent. Heureux ceux qui pleurent, dit Jésus dans le sermon sur la montagne. Nous poursuivons ce matin notre série sur les paroles de Jésus, difficiles à comprendre, en tout cas celles qui sont souvent mal comprises, celles qui ont fait et continuent de faire la polémique, celles dont nous ne savons pas toujours quoi faire. Et pourtant, Jésus les a dites. C'est la raison pour laquelle cette série s'intitule « Et pourtant Jésus l'a dit ». Ce matin, nous abordons le cinquième volet de cette série. Après l'appel au pardon jusqu'à 70 fois, 7 fois, après l'appel à renoncer à soi et à porter sa croix pour suivre Jésus, après l'affirmation par Jésus qu'il est le seul chemin jusqu'au Père, après l'appel à tendre la joue gauche, après avoir été frappé sur la droite, j'aimerais vous proposer ce matin de réfléchir à cette béatitude où Jésus déclare heureux ceux qui pleurent. Comment comprendre une telle affirmation de Jésus que l'on pourrait presque traduire « heureux les malheureux » ? Quel lien peut-il y avoir entre des pleurs et le bonheur, la béatitude, la bénédiction de Dieu ? Quel paradoxe ! Comment des larmes peuvent-elles être source de bonheur ? Y aurait-il une utilité, une valeur morale à la souffrance, aux pleurs, comme l'affirme la doctrine du dolorisme, par exemple ? Si Jésus avait dit « heureux ceux qui rient, heureux ceux qui positivent, heureux ceux qui prennent la vie du bon côté », nous aurions compris sans aucune difficulté. Il est facile de comprendre l'utilité et les bienfaits du rire. Pourtant, ce sont bien ceux qui pleurent qui sont dits heureux par Jésus. Mais de quels pleurs s'agit-il ? S'agit-il de tous les pleurs ? De tous les deuils ? De toutes les tristesses ? Avant d'en arriver au sens de cette béatitude, j'aimerais dire quelques mots sur le contexte et j'aimerais tout d'abord que nous lisions les quelques versets du début de ce sermon sur la montagne où nous trouvons cette béatitude qui, dans la liste de Matthieu, arrive en deuxième position sur une liste de 8 béatitudes. Matthieu 5, versets 1 à 4. « Voyant les foules, il, c'est-à-dire Jésus, monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples vinrent à lui. Puis il prit la parole et se mit à les instruire. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Nous sommes au début du sermon sur la montagne, et je rappelle ici ce que j'ai dit la dernière fois, à savoir que Jésus, dans ce sermon sur la montagne, s'adresse à ses disciples. C'est clair dans ces premiers versets, l'enseignement du sermon sur la montagne est un enseignement pour les disciples de Jésus et non pas pour la foule. Bien évidemment, la foule n'est pas très loin. Et certains de la foule entendent peut-être ce que Jésus dit, mais ce sont les disciples et les disciples seuls qui sont concernés par ce que Jésus dit ici. Et j'avais rappelé la dernière fois que par disciples, il faut bien évidemment comprendre le groupe plus large que le groupe des 12, le groupe de toutes celles et ceux qui suivaient Jésus. Voyant les foules, Jésus monta sur la montagne, il s'assit et ses disciples vinrent à lui, puis il prit la parole et se mit à les instruire, à instruire ses disciples. Il est fondamental de bien comprendre cela, parce que cela nous évite de mal appliquer toutes ces paroles du sermon sur la montagne, en tout cas de les appliquer à des personnes qui ne sont pas concernées par ce que Jésus dit ici, qui ne sont pas en mesure de vivre l'exigence de tout ce que Jésus dit dans ce sermon sur la montagne. Et des exigences, il y en a beaucoup. Et la barre semble bien haute même pour nous qui sommes disciples de Jésus, bien haute même pour nous qui avons l'Esprit de Dieu, bien haute même pour nous qui pouvons compter sur son secours et sur sa grâce pour vivre tout cet enseignement. Cette barre est tout simplement infranchissable pour celle ou celui qui cherche à y parvenir par lui-même, par ses propres forces. Et c'est vrai du non-croyant, bien évidemment, comme du disciple de Jésus qui voudrait vivre la vie chrétienne en ne comptant que sur ses propres forces. Cette précision sur l'auditoire de Jésus nous amène donc à exclure le monde, la société, l'humanité en général comme étant concernée par ce que Jésus dit ici. Les béatitudes, comme le reste du sermon sur la montagne, concernent les disciples de Jésus seuls et ne peuvent être vécues que par eux avec l'aide de Dieu. Un mot rapide sur les béatitudes. C'est quoi une béatitude ? Une béatitude dans la Bible, c'est une sentence qui commence par le mot « heureux » généralement, ou « bienheureux », enfin il y a différentes traductions possibles. C'est un mot qui vient d'un mot latin, « beatus », et donc on a traduit ainsi, et ce mot veut tout simplement dire « heureux ». Il existe beaucoup de béatitudes dans la Bible, nous connaissons surtout celles de Matthieu et de Luc, mais il y en a beaucoup dans les psaumes. Il y en a beaucoup dans les proverbes. Comment comprendre les béatitudes de Jésus ? Celles que nous trouvons dans ce chapitre 5 de Matthieu, et en particulier cette deuxième béatitude, « Heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés ». L'enseignement du sermon sur la montagne étant pour les disciples, les béatitudes de Matthieu 5 précisent ce que doit être l'attitude du disciple de Jésus, du véritable disciple de Jésus. À quoi doit ressembler un chrétien, ou à quoi devrait ressembler un chrétien ? À quoi doit ou devrait ressembler un disciple de Jésus ? Nous avons la réponse dans cette liste de 8 béatitudes. Cette liste de 8 béatitudes qui dresse comme un portrait avec 8 coups de pinceau de ce que devrait être le chrétien. Ceci dit, il nous faut remarquer qu'avant d'être un portrait du chrétien et de ce vers quoi il doit tendre, ces béatitudes sont ou peuvent être le portrait du Christ. Je cite Louis Schweitzer, auteur chrétien bien connu en France, qui dit « Nous avons sans doute là le plus beau portrait possible du Christ. » Il parle donc de ces béatitudes. L'icône biblique la plus précise sur Jésus. Il est en effet à la perfection, celui à qui appartient le royaume, celui qui voit Dieu, celui qui est le Fils de Dieu, toutes ces choses qui sont promises aux béatitudes. Le disciple n'est appelé qu'à suivre son maître, qu'à faire comme lui, qu'à devenir petit à petit comme lui. Les béatitudes dressent donc pour nous le tableau de ce que nous sommes appelés à devenir, l'idéal vers lequel nous devons tendre. Et cet idéal, c'est le Christ lui-même. Ce qui peut expliquer ou ce qui explique pourquoi la barre peut nous paraître si haute. Venons-en au sens de notre béatitude. Quel est-il ? Pourquoi celui qui pleure est-il appelé heureux ? De quelle pleure s'agit-il ? Quelle consolation pouvons-nous espérer ? Heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés. Commençons par la question des larmes. De quelles larmes s'agit-il ? Est-il question ici de toutes les larmes de la vie ? Est-il question ici de toutes les souffrances que nous pouvons endurer ? Est-il question ici de toutes les tristesses et de tous les deuils qui peuvent nous frapper ? Il est difficile d'être catégorique sur le sujet parce que le texte, comme vous le voyez, n'offre pas beaucoup de précisions. Cependant, le contexte des béatitudes peut nous amener et amène certains commentateurs, et c'est le cas de John Stott, dont je vais citer quelques lignes dans quelques instants, peut nous amener à voir dans ces paroles de Jésus une tristesse bien particulière, la tristesse de la repentance. Je cite John Stott, qui dit « Reconnaître sa pauvreté spirituelle, c'est ce dont il est question dans la première béatitude, heureux les pauvres en esprit, c'est reconnaître sa pauvreté spirituelle, n'est pas la même chose qu'éprouver de la tristesse et pleurer à cause de cette pauvreté. En termes plus théologiques, on pourrait dire que la confession est différente de la contrition. » Et il écrit quelques lignes auparavant. Le contexte montre clairement que ceux à qui est promise la consolation ne sont pas seulement ceux qui pleurent la perte d'un ami, mais ceux qui pleurent la perte de leur innocence, de leur justice, de leur dignité. Jésus ne se réfère pas au chagrin causé par le deuil, mais à la tristesse de la repentance. Sans exclure totalement que notre béatitude ait quelque chose à dire sur le deuil en général, je souscris personnellement pleinement à cette compréhension des choses. Et nous pouvons noter ici que la Bible, par ailleurs, parle de la consolation que Dieu donne à celui qui est dans la détresse en général, à celui qui est dans la souffrance en général. Et il ne s'agit pas de nier cela. Ce n'est pas parce que les béatitudes n'en parlent pas que ce n'est pas vrai. D'autres textes le soulignent. Et c'est par exemple ce qu'affirme l'apôtre Paul au début de sa deuxième lettre aux Corinthiens, quand il affirme que Dieu est le Dieu de toute consolation, le Père de toute consolation, le Dieu de tout encouragement qui nous console dans toutes nos détresses. Dans toutes nos détresses. Donc c'est une réalité. Mais ici, dans notre texte des béatitudes, il me semble que le champ d'application est beaucoup plus restreint. De même que la pauvreté de la première béatitude est spirituelle, c'est une pauvreté spirituelle, Heureux les pauvres en esprit. Ainsi, les pleurs de la deuxième béatitude sont eux aussi, entre guillemets, spirituels. Les larmes auxquelles Jésus fait allusion sont premièrement des larmes de repentance. Ce sont les larmes de celles et ceux qui se reconnaissent pécheurs et qui se reconnaissent sous la condamnation de leurs péchés. Ce sont les larmes de celles et ceux qui reconnaissent leur besoin de la grâce de Dieu. Ce sont les larmes de celles et ceux qui se reconnaissent pauvres en esprit. Ce sont les larmes qui suivent logiquement l'humilité dont parle la première béatitude. Ce deuil ou cette tristesse de la repentance est premièrement celle qui amène à la conversion, au salut, à la nouvelle naissance. Ce sont les larmes qui amènent quelqu'un à passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. C'est la tristesse, selon Dieu, dont parle l'apôtre Paul dans sa lettre aux Corinthiens. La tristesse, selon Dieu, qui produit la repentance, dit Paul, et qui mène au salut. En effet, dit Paul, la tristesse, selon Dieu, produit un changement radical, c'est-à-dire la repentance, qui mène au salut, et que l'on ne regrette pas, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Si cette tristesse, selon Dieu, produit la repentance et mène au salut, elle ne devrait cependant pas seulement exister au moment de la conversion, mais tout au long de la vie chrétienne, quand nous péchons, quand nous nous éloignons de Dieu, quand nous lui désobéissons. Ces larmes de repentance, ce sont par exemple les larmes de Pierre après son reniement, quand il est dit qu'il pleura amèrement. Mais toutes les larmes, et il faut le préciser, ne sont pas forcément humides. Ce qui compte avant tout, c'est l'attitude du cœur. C'est le cœur contrit, dit la Bible, qui est agréable à Dieu. C'est celui qui s'humilie devant Dieu que Dieu relève. Ainsi, on peut pleurer sur son péché sans nécessairement toujours verser des larmes. Cette question des larmes, humides ou pas, est en grande partie une question de personnalité, une question de sensibilité. Certains pleurent facilement, d'autres pas. Et c'est vrai aussi pour la repentance. Ce qui compte avant tout, c'est l'attitude du cœur. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Aux larmes de repentance qui sont, selon moi, clairement la visée de ce texte, nous pouvons néanmoins ajouter d'autres larmes, d'autres tristesses. Et je pense ici, par exemple, aux larmes que nous pouvons verser, que nous devrions régulièrement verser, sur le mal en général et sur ses conséquences, sur la misère du monde, sur sa souffrance, ses blessures, ses détresses, sur l'injustice qui règne dans notre monde. C'est cette attitude de cœur qu'avait Lot le juste quand il était encore à Sodome et Gomorre. C'est l'apôtre Pierre qui en parle dans sa deuxième lettre. Il dit, mais s'il a délivré Lot le juste, profondément affligé, on peut y voir des larmes, profondément affligé par la conduite débauché de ces criminels, il parle ici des habitants de Sodome et Gomorre, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait jour après jour son âme de juste à cause du mal qu'il voyait et entendait. Lot pleurait sur Sodome et Gomorre. Il était profondément affligé par la conduite débauchée de ses habitants, par le mal qu'il voyait et entendait. Je pense aussi ici aux larmes, humides ou pas, que nous pouvons verser, que nous devrions régulièrement versée sur notre monde qui se perd loin de Dieu, sur la condamnation éternelle qui pèse sur les hommes et les femmes qui sont loin de Dieu. C'est d'une certaine manière ce que Jésus a fait quand il a pleuré sur Jérusalem qu'il avait rejetée. Jérusalem qui allait être détruite. Jérusalem qui avait refusé le salut que Jésus était venu apporter. Jérusalem qui n'avait pas reconnu le temps de l'intervention divine. En approchant, Jésus vit la ville, il pleura sur elle. En disant, si toi aussi tu avais su en ce jour comment trouver la paix. Mais maintenant cela t'est caché. Car des jours viendront sur toi où tes ennemis t'entoureront de palissades, t'encercleront et te presseront de toutes parts. Ils t'écraseront toi et tes enfants au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Parce que tu n'as pas reconnu le temps de l'intervention divine. Je pense encore ici aux larmes que nous pouvons verser, que nous devrions verser régulièrement sur l'Église de Jésus-Christ quand elle n'est pas fidèle, sur l'Église de Jésus-Christ qui souffre dans le monde, sur l'Église de Jésus-Christ à cause des ennemis de la croix qui y sévissent, sur l'Église de Jésus-Christ parce que l'œuvre de Dieu nous tient à cœur. Ce que l'apôtre Paul écrit aux Philippiens. Mes frères, imitez-moi et portez les regards sur ceux qui suivent le modèle que vous avez en nous, car il en est beaucoup qui se comportent en ennemis de la croix du Christ. Je vous en ai souvent parlé, mais maintenant j'en parle en pleurant, dit Paul. J'ai expérimenté cette semaine quelque chose de cette profonde tristesse. En regardant un programme à la télé, un reportage à la télé qui, c'était souvent dans la caricature, mais n'empêche, qui parlait de certains évangéliques aux États-Unis, en particulier dans le sud des États-Unis. Alors je vous passe les détails des hérésies que j'ai entendues. Je vous passe le détail des affirmations insensées sur le Christ. Je vous passe les détails de la promotion du nazisme. Je vous passe les détails de l'affirmation de la supériorité de la race blanche. C'était triste à en pleurer. C'était triste parce que le nom de Jésus était sali. C'était triste parce que l'évangile était dévalorisé. C'était triste parce que c'était des chrétiens qui disaient et qui affirmaient cela au nom de Jésus. Ils étaient pour moi des ennemis de la croix du Christ. Et en parlant, l'apôtre Paul dit, j'en parle en pleurant. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Nous avons beaucoup parlé de larmes, et j'aimerais dire quelques mots maintenant sur la consolation qui est promise. Si un bonheur est attaché à ces larmes dans notre béatitude, c'est parce que Dieu promet la consolation. De quelle consolation s'agit-il? Pour les larmes de repentance, il s'agit de la consolation du salut. Il s'agit de la consolation du pardon des péchés. C'est vrai à la conversion et c'est vrai tout au long de la vie chrétienne. Il s'agit de la consolation de se savoir en paix avec Dieu, de se savoir réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ. Pour les autres larmes dont nous avons parlé, il s'agit de la consolation de savoir que toutes choses sont néanmoins, malgré les apparences, dans les mains de Dieu. La consolation aussi de l'espérance que Dieu nous offre. L'espérance de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre où la justice habitera. L'espérance du salut parfait que Jésus a inauguré et qui sera pleinement établi lors de son retour. L'espérance des nouveaux cieux et de la nouvelle terre où les premières choses auront disparu Et donc il n'y aura plus ni cri, ni deuil, ni douleur. Et Dieu essuiera toute larme des yeux de son peuple. Cette consolation a été promise par les prophètes de l'Ancien Testament. Et ainsi le prophète Ésaïe annonçait la consolation qu'apporterait le Messie, la consolation des temps messianiques que Jésus a inaugurés. Passage très connu que Jésus va accomplir. Le souffle du Seigneur Dieu est sur moi, car le Seigneur m'a conféré l'onction. Il m'a envoyé porter une bonne nouvelle aux pauvres, hein, les pauvres en esprit. Pensez ceux qui ont le cœur brisé, heureux ceux qui pleurent. Proclamez aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement. Proclamez pour le Seigneur une année de faveur et pour notre Dieu un jour de vengeance. Consolez tous ceux qui sont dans le deuil. Rétablir les gens de Sion qui sont dans le deuil. Mettre sur leur tête une parure splendide au lieu de la cendre. Une huile de gaieté au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit qui vacille, afin qu'on les appelle térébintes de la justice, plantation du Seigneur, pour montrer sa splendeur. Et cette consolation promise, ici par le prophète Ésaïe et ailleurs dans d'autres textes, est venue avec Jésus. Et nous lisons dans le Nouveau Testament que Siméon par ta longue barbe, les enfants nous l'ont chanté l'année dernière à Noël. Siméon attendait la consolation d'Israël, nous est-il dit. Et quand Siméon a pris Jésus dans les bras, dans ses bras, dans le temple, voici ce qu'il a dit. Maintenant, maître, tu laisses ton esclave s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, ta consolation. Celui que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour la révélation aux nations et gloire de ton peuple Israël. Oui, Jésus a apporté le salut, la consolation promise par Dieu. Il est lui-même cette consolation. Mais celle-ci est pour l'instant partielle. Elle est pour l'instant partielle tant que les premières choses demeurent. Elle sera pleinement manifestée lors du retour de Jésus. Une pleine manifestation de la consolation promise, déjà annoncée par les prophètes de l'Ancien Testament et en particulier par le prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 25, versets 6 à 8, « Le Seigneur des armées fera pour tous les peuples, dans cette montagne, un banquet de mets succulents, un banquet de vin vieux, de mets succulents, plein de moelle de vin vieux clarifié. Dans cette montagne, il anéantira le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantira la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes de tous les visages. Il fera disparaître de toute la terre le déshonneur de son peuple. C'est le Seigneur qui parle. Une pleine manifestation de la consolation que l'auteur de l'Apocalypse va reprendre à deux reprises. Pleine consolation dans la présence de Dieu. Pleine consolation dans la nouvelle Jérusalem. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu, ils lui rendent un culte jour et nuit dans son sanctuaire. Celui qui est assis sur le trône les abritera dans sa demeure. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les fera paître et les conduira aux sources des eaux de la vive. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Et puis, le texte plus connu qui se trouve au chapitre 21, là où il y a la description de la nouvelle Jérusalem. Alors je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, prête comme une mariée qui s'est parée pour son mari. J'entendis du trône une voix forte qui disait « La demeure de Dieu est avec les humains. Il aura sa demeure avec eux, ils seront ses peuples, et lui-même qui est Dieu avec eux sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. C'est déjà vrai aujourd'hui, mais c'est partiellement vrai. Et ce sera entièrement vrai, complètement vrai, dans l'éternité, inaugurée par le retour de Jésus. Ce jour-là, Dieu essuiera toute larme de nos yeux, des yeux de son peuple. Notre deuil sera changé en allégresse. Le prophète Jérémie en parle au chapitre 31. Après avoir semé avec larmes, nous moissonnerons avec des chants d'allégresse. Et comme le dit l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, notre consolation sera éternelle. Notre consolation sera éternelle. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Avez-vous déjà expérimenté quelque chose de la consolation de Dieu? Celle de son salut? Celle du pardon des péchés? Celle de la paix de Dieu, de la paix avec Dieu? Celle de la réconciliation avec Dieu par Jésus? Celle de savoir que malgré un monde qui va à la dérive, toutes choses sont dans les mains de Dieu. Celle de savoir que le mal ne triomphera pas éternellement. Celle de l'espérance de la vie éternelle, de la consolation éternelle, des nouveaux cieux et de la nouvelle terre où la justice habitera, parce que les premières choses auront disparu. Jésus est venu nous apporter tout cela et il l'offre à chacun de nous. Et chacun de nous peut ainsi être déclaré heureux. Heureux d'un bonheur qui commence déjà ici-bas et qui va jusque dans l'éternité. Seigneur, donne-moi des larmes. Fais-moi le don des larmes. Celles qui me font plier le genou devant toi. Celles qui me font me voir tel que tu me vois. Celles qui me font reconnaître ta souveraineté. Celles qui font battre mon cœur à l'unisson avec le tien. Celles qui vivent de tes promesses, de l'espérance de ta consolation promise à toutes celles et ceux qui se confient en toi. Merci pour ta patience à l'égard de chacun de tes enfants. Merci pour ton cœur rempli de compassion. Merci pour toutes tes consolations présentes et à venir. Merci parce que tout cela est en Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à quelques instants de silence.